40, rendez-vous aussi Europe 1 2022. On débriefera le discours de politique générale d'Elisabeth Borne. Le style, la méthode, le programme. Mais tout d'abord, le journal sur Europe 1. Excellente journée, soyez les bienvenus. Nous sommes le jeudi 7 juillet. Il est 8h sur Europe 1.
Europe Matin. Dimitri Pavlenko.
Et à la une ce matin, ça y est, le gouvernement entre dans le dur. Le projet de loi sur le pouvoir d'achat étudié en Conseil des ministres aujourd'hui. Le texte prévoit entre autres une aide d'urgence de 100 euros à la rentrée pour les plus modestes. Explication de Carole Ferry, la chef du service éco d'Europe 1 dans un instant. Ce projet de loi pourra-t-il trouver une majorité à l'Assemblée nationale? Une chose est sûre, ce ne sera pas une promenade de santé pour l'exécutif. Et puis, c'est la fête à Avignon. Coup d'envoi hier soir du traditionnel festival de théâtre. Premier spectacle dès ce matin, nous serons en direct sur place avec Marie Jiquel. À 8h13, votre invitée ce matin, Sonia Mabrouk, bonjour.
Bonjour à vous Dimitri, bonjour à tous. Au lendemain du discours de politique générale d'Elisabeth Borne et alors que sera examiné, vous l'avez dit Dimitri, aujourd'hui le projet de loi pouvoir d'achat, notre invité est au cœur de l'actualité, le ministre de l'économie Bruno Le Maire. À tout à l'heure.
Le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est le premier stress test. Vous avez bien entendu, stress test pour le gouvernement. Le projet de loi pouvoir d'achat arrive cet après-midi 16h devant le Conseil des ministres avant d'être débattu à l'Assemblée nationale le 18 juillet. On va y revenir dans un instant. Carole Ferry, bonjour.
Bonjour.
Alors d'abord, le contenu de ce texte. L'une des mesures les plus attendues, c'est l'aide aux automobilistes qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler.
Exactement. Une indemnité accordée quel que soit le nombre de kilomètres parcourus, mais sous condition de ressources. Il y aura également un bonus pour les gros rouleurs, ceux qui font plus de 12 000 kilomètres par an. Alors jusqu'à quel salaire sera-t-elle accordée? Quel sera son montant? Toutes ces questions seront soumises au débat parlementaire. Par ailleurs, est-ce qu'elle prendra le relais de la ristourne de 15 à 18 centimes sur les carburants ou est-ce qu'elle viendra s'ajouter? Ce n'est pas encore tranché.
Alors pour les Français concernés, ça risque un peu d'être une usine à gaz, hein, cette nouvelle aide, Carole.
Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que le gouvernement a choisi de se simplifier la tâche. Il ne va pas chercher les personnes concernées, c'est vous qui devrez faire la demande. Est-ce que ce sera simple? Eh bien, c'est à voir. En tout cas, pour éviter les fraudes, il y aura un recoupement des fichiers, des immatriculations et des impôts, par exemple. Autre mesure phare, le chèque alimentaire, 100 euros par adulte, 50 euros par enfant, la revalorisation de 4% des minima sociaux pour le RSA par exemple, ou encore le bouclier loyer avec une hausse des APL et un plafonnement de l'augmentation des loyers.
Et alors ça va coûter combien, Carole?
Alors c'est difficile à chiffrer précisément puisqu'il reste beaucoup de sujets à affiner au Parlement, mais globalement, Bercy envisage une enveloppe autour de 25-26 milliards d'euros qui s'ajoutent aux 26 milliards d'aides qui ont déjà été mises en place depuis le début de la guerre en Ukraine, notamment le bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité ou la ristourne sur le litre de carburant. Prenons cette mesure par exemple, elle coûte 800 millions d'euros par mois. Ce sera à prendre en compte si elle est maintenue à la rentrée.
Alors 25 milliards d'euros, c'est une somme tout de même. Comment le gouvernement compte-t-il la financer?
Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est que nous avons plus de rentrées fiscales que prévu en 2022, environ 55 milliards de plus, puisque post-Covid, l'activité avait très bien redémarré. On a donc plus de cotisations sociales, notamment grâce à la baisse du chômage. Une partie de cette cagnotte devrait financer ces mesures. Il y aurait aussi de la dette, mais qui coûte plus cher aujourd'hui. Sinon, mais il faudra trouver des économies quelque part. En tout cas, Emmanuel Macron s'est engagé à ce que ça ne passe pas par une hausse des impôts.
Merci. Carole Ferry, chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Jacques Serret.
Bonjour.
Jacques, on le disait à l'instant, ce projet de loi sur le pouvoir d'achat sera présenté cet après-midi en Conseil des ministres, puis proposé à l'Assemblée d'ici deux semaines. Peu de chances qu'il passe comme une lettre à la poste, même si la Première ministre est prête à mettre de l'eau dans son vin.
Oui, Elisabeth Borne le répète à l'envi, elle veut travailler à des compromis avec les forces d'opposition, mais la tâche s'annonce particulièrement ardue, voire impossible sur la question du projet de loi pouvoir d'achat, car chaque petit pas, chaque mesure éventuellement accordée à un camp vaudra la réprobation de l'autre. Exemple avec l'augmentation du SMIC à 1500 euros net réclamée par l'Alliance de gauche, même si ce n'est pas d'actualité. L'exécutif sait d'avance qu'imaginer une telle concession à la NUPES lui ferait perdre immédiatement les voix des Républicains. et vice-versa sur d'autres mesures, ou comment l'examen du projet de loi pouvoir d'achat révélera au grand jour le blocage profond auquel est confrontée la représentation nationale. Une situation intenable aux yeux d'un certain nombre de députés. D'ailleurs, aussi bien dans les rangs de la majorité que du côté de l'Alliance de gauche, des voix commencent déjà à s'élever en faveur d'une dissolution de l'Assemblée, chacun espérant à moyen terme renverser la table à son profit. C'est dire si l'examen de ce projet de loi, qui débutera dans 2 semaines, le 18 juillet, s'annonce pour le moins prometteur.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1.
L'actualité, c'est aussi EDF, bientôt de retour à 100% dans le giron de l'État. C'est l'une des annonces phares du discours de politique générale d'Elisabeth Borne hier.
Oui, 17 ans après l'ouverture de son capital, le gouvernement actionnaire d'EDF à peu près 84% compte revenir entièrement aux commandes. Jean-Bernard Lévy, l'actuel PDG de l'entreprise, sera remplacé d'ici quelques mois. Un nom circule ce matin, Pierre-Franck Chevet, ancien patron de l'autorité de sûreté nucléaire. Il est 8h04 sur Europe 1. Connaissez-vous, Dimitri, la Maison Rose ?
Absolument pas, non. Dites-moi tout.
Eh bien écoutez, il s'agit de l'unique clinique qui pratique des avortements dans le Mississippi. Elle est désormais fermée puisque l'IVG est interdite à partir d'aujourd'hui dans cet État américain.
Et c'est aussi peut-être ce qui attend les 3 cliniques du même genre en Louisiane. Un juge de cet État doit se prononcer demain. S'il autorise la nouvelle loi, l'IVG sera illégal même en cas de viol et d'inceste. Le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, Alexis Guilleux, est allé à la rencontre de l'ancienne directrice de cette clinique de la Nouvelle-Orléans. C'est la plus grande ville de Louisiane. Reportage.
Ce jour-là, aucun avortement n'est programmé. La clinique est fermée, mais les barreaux aux fenêtres reflètent la violence qui se déroule quasi quotidiennement dans ce quartier populaire de la Nouvelle-Orléans. Amy Irving représente une équipe traumatisée par la décision de la Cour suprême.
Quand l'annonce est tombée, il y a eu beaucoup de larmes. Personnellement, j'ai pleuré, je me suis soudainement sentie vulnérable, comme cela ne m'était jamais arrivé. J'avais l'impression que l'on me dévisageait parce que j'étais une femme.
Seules 3 cliniques proposent encore des IVG en Louisiane. 7000 personnes ont pu y avorter l'an dernier. Si la nouvelle loi entre en vigueur, l'État sera l'un des plus isolés du pays. Il faudra voyager des centaines de kilomètres pour pouvoir avorter.
J'ai l'impression que beaucoup de personnes qui étaient à l'écart sur cette question de l'avortement se sont soudainement réveillées. J'ai parlé à des amis qui sont très inquiets pour leurs filles et qui envisagent de quitter la Louisiane.
Une partie du personnel va d'ailleurs déménager dans un État plus progressiste. Amy Irving s'attend, elle, à un long combat, car la victoire des anti-avortements s'est construite pendant plusieurs décennies. Il va nous falloir presque autant de temps pour récupérer ces droits, dit-elle en lançant un appel aux dons. Objectif, renforcer le filet de sécurité pour les familles de Louisiane, le 2e État le plus pauvre des États-Unis. La Nouvelle-Orléans, Alexis Guilleux, Europe 1.
Dans l'actualité internationale, 71 millions de personnes sont tombées dans la pauvreté en 3 mois dans le monde. Chiffre révélé ce matin par les Nations Unies, conséquence essentiellement de la guerre en Ukraine et de la flambée des prix qu'elle entraîne. Le rapport de l'ONU précise que cette accélération de la pauvreté est considérablement plus rapide que le choc de la pandémie de Covid-19.
Voilà, puis cette information qui nous tombe à l'instant, qui nous vient de Londres, une nouvelle démission au sein du gouvernement de Boris Johnson. Cette fois, c'est le ministre chargé de l'Irlande du Nord, Brendan Lewis, qui quitte à son tour l'équipe au pouvoir. On retourne en France et on danse à nouveau sur le pont d'Avignon. Le fameux festival revient aujourd'hui.
Oui, après 2 années sous Covid, adieu les restrictions. Hier, la programmation off et ses 1200 compagnies défilaient dans les rues. Aujourd'hui, la programmation in entame les festivités. Marie Jiquel, vous êtes sur place, bonjour.
Oui, bonjour Fanny, bonjour à tous.
Bon, ça y est Marie, hein, le festival reprend des couleurs.
Et oui Fanny, l'année dernière avec la restriction des jauges, c'était un festival un peu tristounet, il faut le dire. Cette année, on sent que l'un des plus grands festivals de théâtre au monde renaît, avec plus de 1500 spectacles joués jusqu'au 30 juillet. Rendez-vous compte, 33 000 levées de rideaux pendant 3 semaines. Daniel vient chaque année et a déjà concocté son programme.
Là, je vais aller voir Anton Tchekhov et puis les hommes sont des femmes comme les autres. Je leur fais un peu de pub au passage. Ce sont des pièces abusantes. Hein. Alors, par le temps qui court, on a envie de se détendre, de rire.
Et puis Fanny, Avignon, c'est aussi l'occasion de rencontrer les 6000 artistes présents dans les rues. Il faut imaginer une ville tapissée d'affiches qui résiste aux coups de Mistral. Je ne sais pas si vous l'entendez derrière moi. On se dispute les places.
Mais ça s'envole, mais regardez, là, on a notre affiche. C'est la seule qui ne s'envole pas parce que j'ai trouvé le moyen de, ouais. de la mettre...
Il y a des astuces. Quelles sont ces astuces?
Alors moi, mon oncle faisait du bateau, donc il m'a appris des nœuds, des nœuds marins avant de venir. Et du coup, je l'aimais mieux que les autres.
Il y a vachement plus de monde sur les affiches. C'était un peu la guerre hier jusqu'à minuit et demi, donc c'était un peu compliqué. Mais ça va être chouette, on est content d'être là en tout cas, et c'est un pur bonheur d'être à Avignon.
Allez, d'ici une bonne heure, quelques théâtres ouvriront déjà leurs portes. Les places coûtent minimum une dizaine d'euros. Mais vous pouvez aussi gagner votre billet en acceptant certains tracts dans la rue. Enfin, ce soir au programme, l'auteur russe Anton Tchekhov ouvre le bal dans la mythique cour du Palais des Papes pour une pièce fantastique montée par le metteur en scène Kirill Serebrennikov. L'histoire d'un fantôme qui rôde, on suivra ça évidemment pour Europe 1. Et puis enfin, les traditionnelles trompettes d'Avignon résonneront dans cette cour comme avant chaque spectacle, Fanny.
Merci beaucoup. Marie Jiquel et son Mistral cheveux au vent depuis le festival d'Avignon pour Europe 1.
Et merci à vous Fanny pour votre journal.